Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette soirée des figures marquantes de l'histoire de Montréal, qui est organisée dans le cadre des commémorations du 375e, je vous le rappelle. Je vous rappelle que cette série, elle est consacrée aux grands personnages qui ont marqué notre métropole québécoise, notre grande métropole, dans toutes les sphères de l'activité humaine. Alors, ce soir, un nom, Marie Gérin-Lajoie, mais deux destins, ceux d'une mère et d'une fille qui ont toute leur vie défendu le droit des femmes et qui sont venues en aide aux plus démunis. La première, Marie Gérin-Lajoie, née Lacoste en 1867 et décédée en 1945 à Montréal. Si elle avait vécu aujourd'hui, elle serait probablement avocate, juriste, peut-être même juge. Il faut dire que son père était un juge très influent, un juriste important, Alexandre Lacoste. Très tôt, elle s'est passionnée par l'étude du droit. En 1902, elle va publier un traité du droit usuel qui portait spécialement, spécifiquement, portait beaucoup sur les droits des femmes. Les droits des femmes qui étaient très limités quand on était une femme mariée à l'époque, et c'était d'ailleurs l'un de ses premiers combats. Avec d'autres femmes, elle va créer la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et va mener des combats sur plusieurs fronts. Elle va lutter contre les ravages de l'alcool. Elle va lutter aussi pour améliorer l'hygiène publique. On sait que Montréal était une ville où il y avait un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde à l'époque. Elle va aussi, évidemment, militer pour le droit de vote des femmes. Elle a été une de nos premières suffragettes, comme on disait à l'époque. Mais l'un de ses combats aussi est très important, c'était le combat pour l'éducation des femmes. C'est donc pas un hasard si la deuxième, Marie Gérin-Lajoie, qui est née en 1890 et qui est décédée en 1971, a été notre première bachelière canadienne-française. En 1901, elle obtient son bac essor. Non seulement elle obtient son bac essor en 1911, mais elle finit première, ce qui embête beaucoup l'Université Laval de Montréal. La première femme qui termine première. Donc, dans les papiers officiels, dans les archives officielles, c'est le deuxième qui va être le premier. Mais ce qu'on a surtout retenu de Marie Gérin-Lajoie, c'est une congrégation. Elle est devenue sœur elle-même et elle a fondé en 1923 l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, une institution qui est vouée à l'action sociale, l'action communautaire et aussi à l'éducation. Une institution qui lui a survécu. La preuve, c'est qu'il y a 10 sœurs de cette congrégation qui sont parmi nous. On les salue d'ailleurs. Et donc, pour nous parler de ces deux Marie Gérin-Lajoie, de ces deux femmes remarquables, une historienne qui a traversé le Québec pour venir jusqu'à nous, puisqu'elle est professeure à l'Université du Québec à Rimouski. Elle a fait le chemin aujourd'hui pour venir nous parler. C'est donc une historienne, une professeure, une spécialiste de l'histoire des femmes. Elle a publié de nombreux travaux sur le sujet. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Karine Hébert. Bienvenue.
Merci.
Merci d'avoir fait la route.
Ça fait plaisir.
Donc, je l'ai dit en présentation, un nom,
Oui.
deux destins. On confond souvent les deux.
Oui.
Et je pense que c'est. On peut peut-être rapidement les distinguer.
Ben, vous l'avez fait déjà un peu tout
Oui.
à l'heure, juste dans l'introduction. Donc, on a la mère, Marie. Pour les fins de la soirée, qu'on va appeler Marie Lacoste Gérin-Lajoie pour la distinguer de sa fille, Marie Gérin-Lajoie. Marie Lacoste, qui est née, comme vous l'avez dit, en 1867, avec la Confédération, et qui est morte en 1945, et sa fille, qui est née en 1890.
La même année que Maurice Duplessis?
Paraît-il, oui. On pourrait l'appeler sœur Gérin-Lajoie, peut-être pour la distinguer de sa mère, mais ce serait quand même mettre un peu sous le tapis plusieurs années d'œuvres laïques qu'elle a fait avant de devenir religieuse. On pourrait l'appeler en utilisant son deuxième prénom, qui était de naissance Joséphine, mais qu'elle a décidé de changer par la suite pour Justine. Donc, comme on n'est pas trop sûr de quel prénom elle voulait utiliser, on va l'appeler Marie Gérin-Lajoie pour la distinguer de sa mère. Donc, une qui a œuvré qui s'est marié, qui a œuvré sur le plan laïque, qui a fondé la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, et l'autre qui s'est fait connaître beaucoup pour le travail social, pour la fondation de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Donc, deux destins distincts, mais étroitement imbriqués, parce que les deux femmes ont travaillé presque toute leur vie en collaboration pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, pour... et aussi dans une œuvre catholique. Donc, c'était deux croyantes convaincues, la mère et la fille.
Oui, on y reviendra. Et aussi, vous voyez, c'est ça, ce sont des femmes qui sont battues pour les droits des femmes, pour aussi les plus démunis, surtout dans le cas de la seconde, mais la première aussi.
Ah, la première aussi, oui.
Mais ils viennent, elles, et surtout, là, on va commencer par la première,
bien sûr,
d'un milieu assez aisé. De la bonne société canadienne-française.
Oui, oui, tout à fait.
Parlez-nous donc du milieu de la première, justement.
Ben, Marie Lacoste, Gérard Lajoie est née Lacoste, justement. Son père, comme vous l'avez dit, est Alexandre Lacoste, qui est un notaire éminent, très proche du Parti conservateur. Il a travaillé au cabinet de Gédéon Louis-Huimet, puis Joseph-Adolphe Chapleau, qui vont être premiers ministres du Québec, respectivement. C'était quelqu'un qui était spécialisé en droit des affaires, en droit de l'immobilier, droit de la succession, qui est allé plaider au Conseil privé de Londres, qui a servi d'intermédiaire pour le gouvernement du Québec. Donc, quelqu'un qui était, qui est décrit, en tout cas, dans le Dictionnaire biographique du Canada, comme un conseiller discret, mais influent du Parti conservateur. Et sa mère, Marie-Louise Globinski, vient également, là, c'est aussi une femme de bonne famille qui est très, très pieuse. Son père était avocat aussi, proche de Louis-Joseph Papineau, de Napoléon Bourassa, donc elle les a connus dans son enfance. Et comme je le disais, c'est une femme qui était très pieuse, très engagée dans les œuvres philanthropiques, les œuvres de charité de l'époque. Et elle a été vouée à sa famille. Il faut dire qu'elle a eu 13 enfants. Sur les 13, 10 ont survécu. Et elle s'est investie beaucoup auprès de ses filles particulièrement. Donc, elle voulait leur transmettre ce besoin du devoir accompli. Et ça a assez bien fonctionné. Ses filles ont dû être assez bonnes élèves. Parce que, outre Marie, il y a sa sœur Justine Lacoste-Beaubien, qui plus tard va fonder l'hôpital Sainte-Justine. Il y a Thaïs Lacoste-Frémont, qui va s'installer à Québec, qui va devenir une membre influente du Parti conservateur, une militante suffragiste aussi. Donc, vraiment une famille de femmes affirmées et assez importantes.
Mm-hmm. Et oui, Globinski, c'est un nom qu'on a retrouvé durant les Patriotes.
Oui,
hein? C'était quelqu'un qui était impliqué.
Tout à fait.
La formation, hein, c'est une autodidacte,
oui,
on dirait aujourd'hui. La formation de la première Marie-Gérard Lajoie n'a pas laissé de très bons souvenirs.
Non. Ben, en fait, sa première formation, c'est vraiment dans le cadre familial, où est-ce qu'elle a été amenée à côtoyer la bonne société de son époque, anglophone, francophone, donc les Dandurand, les Forget, les Allen, les Van Horn. Mais sa formation strictement académique, si on veut, s'est faite au couvent d'Hochelaga, donc de 9 ans à 15 ans. Elle a été pensionnaire au couvent.
Ça a été difficile.
Paraît-il, oui. Elle n'en a pas gardé de très bons souvenirs. Ses premières années particulièrement ont été assez pénibles. Elle n'aimait pas être loin de sa famille. Elle avait de la difficulté à se soumettre à l'autorité du couvent. Et finalement, paraît-il que c'est son père qui l'a convaincue de s'investir dans ses études en lui disant, écoute, si tu te rends à la fin, après, je te donne accès à ma bibliothèque. Et sa bibliothèque était imposante et intéressante pour une Marie qui voulait apprendre. C'est vraiment une caractéristique qui traverse sa vie, là. Cette soif d'apprendre-là, elle va toujours l'avoir. Donc, au moment où est-ce qu'elle finit, qu'elle se rend au bout de son couvent, de son pensionnat, elle va pouvoir se former dans la bibliothèque de son père, avec l'appui de son père. Donc là, elle va vraiment prendre connaissance des ouvrages qui sont là et elle mange de tout. Et il faut voir, là, Marie termine son couvent, elle a 15 ans, Et 2 ans plus tard, on va ouvrir le Royal Victoria College à McGill. Donc, ça va être la première possibilité, finalement, pour des femmes, mais là, anglophones et protestantes, de poursuivre à l'université. Et je ne pense pas que Marie-Louise Globenski, aussi pieuse qu'elle était, aurait accepté que sa fille puisse aller à l'université McGill.
Maintenant, en 1884, elle va épouser un certain Henri Gérin-Lajoie.
En fait, elle le rencontre en 84.
Elle le rencontre.
Oui, ils vont se marier en 87. En 84, elle a 15-16 ans.
Oui, là, oui. ouais.
Ils se rencontrent en 1884. Lui, il est jeune associé au cabinet de son père. C'est
une belle famille.
C'est les Gérin-Lajoie. Donc, son père, c'est Antoine Gérin-Lajoie, l'auteur d'Un Canadien errant, de Jean Rivard, défricheur, économiste, quelqu'un qui est assez bien connu. La mère d'Henri est Joséphine Parent, la fille d'Étienne Parent, donc qui est associée à une famille libérale, politicienne, qui est une femme très affirmée, très lettrée, très affirmée, avec beaucoup de caractère, qui va avoir une belle relation avec sa belle-fille. Et Henri fait preuve d'une belle ouverture d'esprit. Et dans des lettres qu'ils ont échangées avant leur mariage, il lui a accordé la permission de faire les œuvres qu'elle voulait faire dans la mesure où elle s'occupait comme il faut de la maison et des enfants. Donc, face à cette ouverture-là de son époux, elle s'est convaincue qu'elle avait fait le bon choix.
Oui.
Et il se marie en 87.
Oui, mais c'est parce qu'on voit bien dans la biographie de cette dame, faite par une excellente biographie d'Anne-Marie Sicotte, s'il y en a une qui connaissait ses droits, c'était elle. C'est-à-dire qu'elle savait très bien ce qui l'attendait. Une fois qu'elle se mariait, elle perdait ses droits. Elle le savait.
Elle le savait tout à fait.
Donc, elle ne faisait pas ça à la légère.
Non. Non, elle avait déjà étudié beaucoup. Elle avait déjà commencé à étudier beaucoup le droit civil. Elle savait quelles étaient les injustices auxquelles étaient soumises les femmes mariées. Et elle avait un peu placé les choses avant de s'engager dans une vie conjugale.
Et ça a été... je pense qu'on peut dire que pour un homme de son temps, de sa génération, il lui a donné la latitude de s'engager comme elle le souhaitait.
On n'a jamais, dans toutes les lettres que j'ai pu lire, etc., jamais on l'a vu adresser des reproches à Marie pour s'être investie à ce point-là. Et Marie, de son côté, a toujours respecté à la lettre l'entente qu'ils avaient eue, c'est-à-dire qu'elle a... Elle s'est impliquée très fortement. Sa maison était bien tenue, ses enfants étaient bien élevés. Donc, à partir de là, elle a pu conserver la latitude qu'elle voulait.
J'ai trouvé qu'il y avait un très beau texte dans le testament de Marie Gérin-Lajoie née Lacoste. Il y a une lettre qu'elle adresse à son mari, Henri Gérin-Lajoie, qui est très belle. Je vais vous en lire un extrait. « Tu as pris soin de moi avec une sollicitude touchante. Tu as été généreux. Je demande à Dieu de te récompenser des sacrifices que tu t'es imposé pour moi. » J'ai vu ton âme s'élever dans la foi, puisse tes dernières années s'illuminer de beauté éternelle. Pardonne-moi les défauts de caractère qui ont pu à certains moments te rendre la vie pénible. J'espère que dans ton souvenir, ils disparaîtront pour faire place au sentiment de fidèle attachement que je t'ai porté. Je te donne tous mes biens, mais je compte sur ta parfaite honnêteté pour remettre ces biens selon mes désirs en parts égales à nos enfants. » Non, mais c'est très beau, c'est très touchant. Donc, ça montre qu'il y a eu une belle confiance entre ce couple.
Oui, bien, Henri était un homme assez solitaire aussi. Donc, souvent, l'été, par exemple, elle partait en vacances avec les enfants et lui restait beaucoup à Montréal. Ils avaient quand même une vie, chacun de leur côté, d'une certaine manière, malgré l'existence d'un couple solide. Tout ce que j'ai pu constater, c'était un couple solide, mais qui s'était laissé beaucoup de latitude.
Alors, quels sont les chemins qui vont l'amener à cet engagement politique, social, même intellectuel?
Bien, je dirais que le principal chemin que va emprunter Marie dans toute sa vie, c'est celle de l'étude. C'est vraiment une femme qui a été assoiffée de connaissances, qui s'est assise à tous les jours de sa vie pour lire, pour étudier, pour travailler. Et ça l'a amenée à prendre conscience théoriquement de certaines choses, comme je parlais tout à l'heure de certaines injustices, par exemple, dans le droit civil. Mais aussi, bon, je l'ai dit, sa mère était une philanthrope engagée et elle amenait Marie avec elle faire la visite des familles pauvres. Donc, elle a aussi été confrontée à la misère de l'époque, aux difficultés des familles ouvrières. Et cette conjonction-là l'a amenée à véritablement prendre conscience de l'espace que les femmes pouvaient occuper dans la société et aussi des limites de cet espace-là. Et c'est sur cette limite-là qu'elle a toujours voulu jouer par la suite.
Mais justement, alors, avant de mieux comprendre ces combats, pouvez-vous peut-être nous présenter la situation légale de la femme mariée à la fin du 19e siècle? Quels sont les droits ou...
Ben, en fait, bon, sur le plan civique à proprement parler, les femmes n'ont pas, qu'elles soient mariées ou non, n'ont pas le droit de vote au provincial, au fédéral. En 1892, les femmes veuves et célibataires vont obtenir le droit de vote au municipal. Donc, elles n'ont pas un accès direct à une action publique politique. Puis si elles n'ont pas le droit de vote, elles ont encore moins le droit d'éligibilité. Elles ne peuvent pas être députées ou avoir de fonction politique. Donc ça, c'est vraiment très, très limité. Sur le plan civil, il y a plus de latitude qui est accordée aux femmes veuves ou célibataires dans la mesure où est-ce qu'elles sont responsables d'elles-mêmes. Elles ont le droit de signer des contrats, elles ont le droit d'engager leur propre nom, de gérer leurs biens, chose qu'elles perdent en se mariant. Donc, à partir du moment où les femmes se marient, elles tombent sous l'autorité maritale, l'autorité conjugale, et c'est un peu comme si la famille est l'unité de base de la société. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un chef, et le chef, c'est le père de famille. Et à partir de là, l'épouse devient une mineure sur le plan légal, au même titre que ses enfants, par exemple. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas signer de contrat en son propre nom, qu'elle ne peut pas... léguer ses biens directement, elle ne peut pas avoir un compte en banque à son nom. Si elle a un salaire, elle ne peut pas le gérer elle-même. Les femmes n'ont pas non plus la possibilité d'être seules tutrices de leurs enfants. Donc, advenant le décès de leur époux, elles peuvent être tutrices, mais avec un tuteur qui va être désigné par un conseil de famille. Donc, il y a énormément de limitations à l'espace, finalement, qui est concédé aux mères de famille. Et pour Marie Gérin-Lajoie, ça va être vécu comme un empêchement de jouer son rôle, pour les femmes, en fait, de jouer leur rôle de mère, tant auprès de la famille qu'auprès de la société.
On donne des exemples aussi que, c'est ça, clairement, une femme mariée qui travaillait, au plan strictement légal, l'argent qu'elle gagnait ne lui appartenait pas.
Non.
Appartenait à la famille.
Appartenait à la famille, et comme le mari était le gestionnaire des biens familiaux, c'était lui qui avait l'autorité sur le salaire de sa femme.
C'est ça. Et dans les cas où il y avait des familles dysfonctionnelles, par exemple un homme alcoolique, un homme qui pouvait venir chercher l'argent puis s'en aller, puis il n'y avait aucun recours contre lui.
Absolument aucun retour. Ça va devenir d'ailleurs une des revendications importantes de Marie Gérin-Lajoie qu'on va voir vraiment s'imposer avec la Commission d'Orion dans les années 1929-1930. Marie Gérin-Lajoie a fait beaucoup de revendications pour obtenir des droits pour les femmes. Droit de vote, amélioration du Code civil, droit à l'éducation, droit au travail, etc., etc. Donc, on l'a beaucoup associé au féminisme, ce avec quoi je ne suis pas en désaccord particulier, d'autant qu'elle-même se désignait souvent comme une féministe chrétienne, mais comme une féministe. Mais quand on décortique le fondement idéologique de ces revendications, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas nécessairement une recherche d'égalité pour une recherche d'égalité entre les hommes et les femmes. Les droits que Marie Gérin-Lajoie va réclamer, que Marie Lacoste Gérin-Lajoie va réclamer pour les femmes, sont toujours orientés dans une perspective de leur donner les moyens de remplir leur devoir social. Et ce devoir-là, c'est un devoir qui est fondé sur les caractéristiques fondamentales des femmes, c'est-à-dire la possibilité d'être une mère. Donc, c'est un peu comme si on demandait des droits pour les femmes pour les aider à être des mères dans leur famille, mais aussi à projeter sur l'ensemble de la société les principales caractéristiques attendues des femmes, le dévouement, l'attention aux autres, etc. Donc, on est vraiment dans une nuance argumentative. Je ne fais pas ça pour mettre des étiquettes là où est-ce que ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment pour essayer de redonner à ces femmes-là la base de leur argumentation, de leur conviction première.
C'est parce que les femmes sont des mères qu'elles doivent s'impliquer socialement et dire leur mot. Parce qu'elles connaissent un monde différent des hommes.
C'est par leur différence qu'elles vont être en mesure d'apporter quelque chose de spécifique à la société. Mm-hmm. Donc, on n'est pas face à une égalité complète. Les hommes et les femmes doivent avoir des droits parfois équivalents, mais ce n'est pas pour jouer le même rôle. Donc, on insiste beaucoup sur la différence entre les hommes et les femmes dans ce genre de réclamation.
Et ça, cette perspective-là allait dans le sens de ce que souhaitait l'Église. C'est-à-dire que ça ne pouvait que faire l'affaire de l'Église, puisque l'Église voulait que les places soient clairement assignées aux hommes et aux femmes.
Ben, il n'y avait pas juste l'Église.
L'ensemble
de la société fonctionnait de cette manière-là. L'Église aussi, bien entendu. C'était à la base même de la cellule familiale catholique, hein, d'avoir des rôles différents entre les hommes et les femmes. C'est ce qui va lui permettre aussi de structurer sa pensée. Là. Mm-hmm.
Marie-Gérin Lajoie, elle n'est pas toute seule. Elle a tout un réseau autour d'elle qui va l'amener à créer justement cette première association, on en reparlera, en 1907. Qui sont ces femmes qui l'entourent, avec qui elle milite, qui sont dans le fond une sorte de réseau? Quelques noms là, pour nous repérer.
Ben, il y a des noms qui reviennent pendant très, très longtemps dans la vie de Marie-Gérin Lajoie. Je vous l'ai dit, hein, avec sa famille, elle avait été amenée à rencontrer la bonne société de l'époque. Une femme qui revient souvent, c'est Joséphine Marchand d'Endurant. Joséphine Marchand d'Endurant, qui est la fille de Gabriel Marchand, qui va devenir premier ministre du Québec quelques années.
Qui avait milité pour l'instruction obligatoire. Ça n'a pas fonctionné.
Et qui est la femme d'un homme d'affaires qui va être sénateur. Joséphine Marchand d'Endurant est une femme de tête, est une journaliste qui va fonder le premier journal, la première revue féminine au Québec, Le Coin du Feu, en 1893. Et c'est vraiment là que Marie Lacoste-Gérin-Lajoie va publier ses premiers textes. Donc, dès 1893, sous le pseudonyme d'Yvonne, elle va publier une série de textes sur le travail des femmes. Donc, cette relation-là avec Joséphine d'Endurant continue longtemps. On va voir Joséphine Marchand d'Endurant à la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. On va la voir aussi au Montreal Local Council of Women. Donc, 1893, c'est une année faste pour les femmes à Montréal, parce que c'est aussi l'année de la fondation du Montreal Local Council of Women, qui est la branche montréalaise du National Council of Women, et qui rassemblait des anglophones, des francophones. Donc, on retrouve là, par exemple, Lady Julia Drummond, qui était une grande philanthrope, l'épouse du président de la Banque de Montréal. On retrouve d'autres anglophones comme Grace Ritchie-Handlin, qui était la première femme médecin à agir ici, Carrie Derrick, qui était la première prof à McGill, aussi une botaniste, une généticienne, mais d'autres femmes francophones, souvent des épouses d'hommes d'affaires, de politiciens, des femmes aussi journalistes par elles-mêmes. On pense à Caroline Bic de Saule, qui va œuvrer avec Marie très longtemps, Marie Thibodeau, dont le mari était aussi un homme d'affaires important, Robertine Barry, dite Françoise, journaliste, oui, c'est ça, Eva Circé-Côté dans les premières années également. Donc, plusieurs femmes qu'on voit apparaître à plusieurs endroits et qui travaillent ensemble au départ au Montreal Local Council of Women et qui vont se retrouver par après.
Justement, donc ça commence dans une institution qui vient du Canada anglais, si je ne m'abuse.
Oui, oui.
Et donc, ces Canadiennes-Françaises veulent une association francophone. Donc, en 1907, vont créer une autre association. Quelle est en gros la mission?
Bien, en 1907, on va fonder la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Mais il faut voir qu'avant, il y avait eu déjà un début d'organisation. Donc, en 1902, ces femmes francophones, catholiques-là, avaient formé le groupe des dames patronesses de la Société Saint-Jean-Baptiste, donc un groupe nationaliste, qui avait demandé, en fait, à leurs épouses, pour la plupart, de leur donner un coup de main pour payer les dettes entraînées par la construction du monument national.
Ah, oui, oui.
Et ces femmes-là en ont profité pour se regrouper entre elles. Et il faut dire que... c'était devenu quelque chose de possible, le regroupement des laïcs catholiques depuis la promulgation de Rerum Novarum en 1891.
Oui,
donc, cette encyclique papale de Léon XIII essayait prenait acte, en fait, des dérives du libéralisme, de l'industrialisation, de la peur du communisme et tout ça, et faisait de l'engagement laïque une des bases de l'action catholique pour régénérer la société. Mm-hmm. Et pour y arriver, le regroupement des forces laïques était une des avenues privilégiées. Donc, Marie Lacoste Gérin-Lajoie, vu là une possibilité de regrouper les forces féminines catholiques pour œuvrer un peu dans la même lignée que ce qu'elle faisait au Montreal Local Council of Women, mais vraiment pour donner un espace aux femmes catholiques qui n'étaient pas toujours très à l'aise dans une association anglophone protestante. Cette association-là était neutre religieusement, mais les femmes anglophones avaient déjà une tradition d'engagement social et d'œuvre. Donc, elles ont, en se créant un endroit pour elles, ça leur donnait plus de latitude, finalement, plus de liberté. Et la Fédération va vouloir œuvrer pour l'amélioration de la société canadienne-française, généralement. Et on travaille beaucoup à Montréal pour l'amélioration de la condition des femmes à l'intérieur de cette société-là. Donc, vont être de plusieurs luttes, mais c'est une œuvre d'action catholique.
Oui, c'est ça, c'est très important de se le rappeler.
C'est ça. Donc,
j'aimerais que vous nous parliez de... Il y a la liste de ses combats, et on passerait toute la soirée là-dessus. C'est vraiment impressionnant, tous les combats qu'elle a menés. Celui sur la santé publique est très frappant. Ça nous dit quelque chose, ça nous révèle des choses sur le Montréal du début du 20e siècle.
Oui, bien...
Quelles étaient ses revendications? À quoi ressemblait Montréal à l'époque au point de vue de la santé publique?
Bien, vous en avez glissé un petit mot tout à l'heure. Bon, Montréal s'est industrialisé rapidement au milieu du 19e siècle. C'est urbanisé aussi très rapidement. Donc, il y avait des quartiers ouvriers qui avaient été construits à la hâte où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. Les niveaux de vie étaient relativement faibles. Donc, pas d'égout toujours, l'eau courante, on n'en parle pas, plusieurs épidémies, et ça entraînait des taux de mortalité infantile absolument effarants. On parle à la fin du 19e siècle d'à peu près 250 pour 1000. Ça, ce que ça veut dire en vrai, là, c'est qu'il y a un bébé sur quatre qui ne soufflait pas sa première bougie, là, donc qui mourait pendant sa première année de vie. Donc, c'était un problème humain. Et c'est un problème national aussi.
Ouais. Autre combat, évidemment, on l'a mentionné rapidement, c'était le droit de vote.
Oui.
Mais là, le droit de vote, d'un point de vue d'une maternaliste, c'est quoi les arguments pour dire que les femmes doivent avoir le droit de vote? Puisque dans la biographie d'Anne-Marie Scott, elle cite un texte, par exemple, de Idola Saint-Jean, dans les années 20, et on voit que l'argumentation est assez moderne. On se reconnaît dans l'argumentation d'Idola Saint-Jean, mais Marie Gérin-Lajoie, c'était pas tout à fait le même type d'argument.
Non, pas tout à fait.
Sur l'égalité.
Ben, c'est ça. Idola Saint-Jean, c'était vraiment les femmes devraient avoir le droit de vote parce que ce sont des citoyennes au même titre que les hommes. Marie Gérin-Lajoie reprend cette idée-là que je vous ai présentée tout à l'heure sur le maternalisme. Si vous permettez, je vais juste vous lire un petit bout du texte qu'elle a écrit, en fait, qu'elle a lu aux politiciens, à la Chambre, en 1922, au moment où le Comité pour le suffrage féminin est allé faire sa première revendication publique. Et voici comment elle justifie cette demande-là. « Il peut vous paraître inattendu, messieurs, que je me prévale du rôle familial de la femme pour réclamer ses droits politiques, tant d'autres ne les ayant sollicités qu'à cause de la participation que la femme apporte au développement économique d'un pays. » Je pense cependant que la raison qui milite le plus en faveur du suffrage pour la femme est celle qui s'appuie sur le caractère spécial et distinctif de sa fonction sociale et que c'est plus au nom de la différence que de sa ressemblance avec l'homme qu'elle doit jouir des franchises électorales. Donc, c'est parce qu'en raison de sa différence, elle peut apporter quelque chose à la société qu'on devrait lui donner le droit de vote. On s'entend que c'était un peu moins inquiétant pour des tenants d'une idéologie plus traditionnaliste que de voir ce type d'argument-là, mais elle était profondément convaincue de la part sociale que les femmes pouvaient faire en fonction de leur rôle de mère.
Et puisque vous citez rapidement, je me permets de citer le Mgr Bruchesi, oui, qui était l'évêque de Montréal au début donc du 20e siècle, et dans la foulée de ce débat-là sur le droit de vote, mais sur ce qu'était le féminisme, il dit la chose suivante. « Je sais que le féminisme est à l'ordre du jour. Quand on songe aux prétentions qu'il affiche en certains lieux, aux principes qu'il proclame, aux réformes qu'il poursuit, on a assurément raison de le condamner, et pour ma part, je n'en voudrais aucunement parmi nous. Nos mères et nos sœurs nous sont apparues jusqu'à présent avec une auréole de bonté, de zèle modeste et de grâce qui nous les fait vénérer autant qu'aimer, et nous ne voudrions pas que cette auréole leur fût ravie. Mais ici, il n'y a de ce féminisme prétentieux, égalitaire et oublieux, je ne crains pas de l'affirmer, de la véritable grandeur de la femme. Il n'y a rien de cela, donc il n'y a rien de ce féminisme ici. Puisque le mot féminisme a été introduit dans notre langue, je l'accepte, mais je réclame pour lui un sens chrétien. Et je demande la permission de le définir ainsi, le zèle de la femme pour toutes les nobles causes dans la sphère que la Providence lui a assignée. » Donc, il était féministe.
Il était féministe.
Comprenons dans son sens. Maintenant, un autre de ses combats, c'est l'éducation.
Oui.
Et donc, on peut dire que s'il y avait une femme qui était prédestinée à être bien éduquée, c'était la fille,
oui,
de Marie Gérin-Lajoie née Lacoste. C'est pas un hasard si elle a fait une éducation supérieure.
Non, non, non. On a vu l'engagement de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie dans sa propre éducation. Elle y a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et quand elle a eu une fille, il est apparu très clair que sa fille allait avoir une éducation supérieure. Rapidement, elle a tout mis en œuvre pour que sa fille soit formée correctement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à McGill, on a formé le Royal Victoria College en 1884. Il n'y avait rien encore pour les filles catholiques. Donc, Marie a eu une formation au couvent du Mont-Sainte-Marie par la congrégation Notre-Dame. Elle n'a pas été pensionnaire. Elle n'a pas voulu faire subir à sa fille ce qu'elle avait subi. Donc, elle s'est organisée avec la directrice mère Sainte-Anne-Marie pour que Marie puisse être externe. Donc, elle a fait toutes ses études au Mont-Sainte-Marie, primaire, secondaire. Mais là, arrivait la fin de son secondaire et il ne se passait rien. Donc, depuis 1904 à peu près, mère Sainte-Anne-Marie au Mont-Sainte-Marie essayait de donner des cours un peu plus avancés à ses filles. Elle avait fait des revendications auprès de Mgr Bruchesi pour pouvoir obtenir l'autorisation d'ouvrir une école supérieure pour jeunes filles. Et là, ça ne marchait pas. Et Marie arrivait à la fin de sa formation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que Marie Lacoste-Gérin-Lajoie a laissé planer la menace qu'elle pourrait peut-être inscrire sa fille à McGill, ce qui était quand même assez osé de sa part. Et au même moment, circulait une rumeur selon laquelle certaines femmes, dont Eva Circé-Côté, qui était quand même libérale, assez radicale, voulaient ouvrir un collège neutre, laïque, pour jeunes filles. Donc, devant ces deux menaces-là, en se disant, bon, ben, peut-être qu'on est rendu là, Mgr Bruchesi a donné l'autorisation d'ouvrir l'équivalent d'un collège classique pour les filles, sans donner le droit à l'école de s'appeler collège classique. Donc, ça a été l'école supérieure pour jeunes filles qui a été ouverte au Mont-Sainte-Marie. Et Marie Gérin-Lajoie fait partie de cette première cohorte-là à avoir poursuivi sa formation classique. Et elle va terminer en 1910. C'est la première de sa cohorte à finir parce que sa mère s'est assurée qu'elle prenne un peu d'avance en lui faisant suivre des cours de latin à la maison, etc. Donc, en 1910, elle obtient son baccalauréat et c'est la première bachelière.
OK, quand on dit baccalauréat pour l'époque, c'était le diplôme qu'on obtenait après l'équivalent du collège classique.
Exactement.
Donc, on n'est pas dans un premier cycle universitaire, non, à l'Université Laval de Montréal de l'époque.
Non. En fait, après les années de collège classique, tous les étudiants passaient des épreuves, des examens qui étaient pilotés, qui étaient par l'université, mm-hmm. et c'était le diplôme qui faisait suite au collège classique.
Oui, et là, il se passe quelque chose de particulier, je l'ai mentionné oui. rapidement, mais racontez-nous ce qu'il y a autour. Donc, elle termine première, oui. mais ça embarrasse l'institution.
Ça embarrasse pas mal de monde, en fait, parce que c'est... On ne s'attendait pas, en fait, à ce qu'elle finisse première, et ça n'a pas été publicisé, donc ça n'a pas été dit au moment de...
Mais il y a eu un tableau, là, avec le premier, tout ça, ou
oui,
pas?
Oui, mais elle n'était pas là.
Elle n'était pas sur le tableau?
Elle n'a pas été sur le tableau. En fait, le premier, celui qui finissait premier avait droit à une bourse pour, ah oui. pour lui permettre d'entrer à l'université. Et comme les filles n'étaient pas encore admises à l'université, ben elle n'a pas pu obtenir la bourse. De toute façon, elle n'en aurait pas eu besoin. Elle ne pouvait pas s'en servir. Et on a caché pendant une dizaine d'années qu'elle avait fini première. Mère Sainte-Anne-Marie, donc la directrice du collège, l'a su. Elle était au courant, mais elle n'avait pas vraiment le droit de le dire. Elle venait tout juste d'obtenir l'autorisation d'avoir une école supérieure pour jeunes filles. Il ne fallait pas que ce soit menaçant pour l'ordre établi. C'était encore très, très fragile comme institution. Marie l'a su une dizaine d'années plus tard qu'elle
oui.
avait fini première. Ouais. En fait, c'est ce qu'on apprend. Là.
C'est incroyable.
Donc, oui. Donc,
elle a su 10 ans plus tard qu'elle avait fini première.
Oui.
Donc, elle n'a pas pu célébrer trop. Là. C'était passé, c'était déjà terminé.
Bon, au moins, elle a pu célébrer oui. son baccalauréat,
oui, ça, c'est
ce qui
sûr.
Était déjà un
au
grand
fond,
accomplissement.
L'entourloupette, ça a été de dire le boursier de cette année
c'est
sera
ça.
Un tel. Donc,
ça.
Ça a été un peu l'entourloupette pour.
Ça.
Ça passe en douce. Hélène Pelletier-Baillargeon, hein, vous savez qu'Hélène Pelletier-Baillargeon, je présente rapidement son livre à consacrer à Marie Gérin-Lajoie la seconde, un livre magistral, très fouillé. Et quand on la lit, Hélène Pelletier-Baillargeon, on voit à quel point c'était une intellectuelle, on peut dire, une femme qui a beaucoup, beaucoup réfléchi à l'engagement, au sens. Elle a beaucoup écrit aussi.
En fait, Marie Gérin-Lajoie, fort probablement qu'elle ne se serait pas décrite comme une intellectuelle.
Non.
Et l'ensemble de la formation qu'elle est allée chercher était toujours tournée vers l'action. Donc, toutes ses lectures, toutes ses réflexions ont été tournées vers l'action. Elle apprenait pour faire quelque chose. Bon, personnellement, je n'ai aucune... J'ai aucune objection à utiliser le terme d'intellectuel parce qu'elle a posé un regard réflexif, elle a appuyé son mm-hmm. action sur quelque chose de solide. Elle a écrit beaucoup, mais elle a assez peu systématisé sa pensée. Mm-hmm. Elle n'a pas écrit d'ouvrage, elle a écrit plusieurs conférences, plusieurs articles, mais souvent sur des points mm-hmm. un peu spéciaux.
Les jésuites semblent avoir eu beaucoup d'influence. En quoi les jésuites ont eu de l'influence sur elle?
Ben, ils ont été ses directeurs de conscience.
Oui.
Donc, la première personne qui l'a accompagnée, parce qu'on avait des directeurs de conscience à l'époque, c'est le père Loiseau, Stanislas Loiseau, qui était aussi le directeur de conscience de sa mère, qui est un jésuite. Et à sa mort, en 1919, il avait confié la direction de Marie à son collègue Samuel Bellavance, qui était aussi l'aumônier de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française, c'est ça. Donc, deux jésuites qui ont accompagné beaucoup Marie dans ses lectures, dans sa formation. Pour les jésuites, l'éducation est très importante, mais toujours aussi une éducation portée vers l'action qui doit servir, qui doit mener à quelque part. Ils l'ont amenée à se familiariser avec les exercices d'Ignace de Loyola, donc quelque chose de très, très rigoureux. Ce qui fait... Quand je vous disais que c'était une intellectuelle portée vers l'action, justement, dans sa biographie, Hélène Pelletier-Baillargeon relate une phrase de Marie Gérin-Lajoie qui dit « J'ai pas besoin de sœurs obéissantes, j'ai besoin de sœurs débrouillardes. » Donc, pour elle, l'idée, c'est de se convaincre, d'avoir une foi affirmée,
robuste,
pour se porter vers l'action. Mmh. Et en ça, les jésuites ont été très, très influents.
Le contraire des contemplatives, d'une congrégation de contemplatives.
Elle ne voulait pas là, de sœurs qui allaient être là juste pour faire ce qu'on leur demandait, etc. Elle voulait des sœurs tournées vers l'action.
Et ça, c'est tout à fait dans l'esprit vous avez parlé de Rerum Novarum, d'une église qui va vers les laïcs de plus en plus.
Oui, oui, et c'était associé à plusieurs auteurs français de cette époque-là. Donc, Marie avait lu ses classiques, mais elle lisait aussi beaucoup les penseurs français de l'époque. On pense à René de la Tour du Pin, à Albert de Meun, à Frédéric Leplé. Frédéric Leplé, qui était le mentor de son oncle, Léon Gérin, par ailleurs, le premier sociologue québécois, qui a été influent aussi pour Marie. Donc, ces penseurs catholiques, près du corporatisme, près des collaborations de classe, mais on s'entend relativement à droite quand même. Là-dedans, on a des monarchistes et tout ça, mais des gens qui vont puiser à l'action catholique inspirée de Rerum Novarum et qui visent l'action. Là.
C'est ça. Au fond, ce sont des gens qui voient que la question sociale est très importante, mais ils y répondent d'une manière plutôt conservatrice, en lignée ou proche de la perspective de l'Église.
Exactement.
Pour répondre à leurs vis-à-vis, qui sont les socialistes ou les communistes en Europe. Pas ici, mais en
Europe. Donc, on n'est pas du tout dans une idéologie révolutionnaire.
C'est ça.
On veut conserver une certaine hiérarchie sociale.
Une harmonie.
Une harmonie. Hein, au cœur de Rerum Novarum, il y a cette idée-là que tout le monde doit être à sa place, que les classes doivent collaborer entre elles dans un objectif d'action catholique. Donc, on est vraiment dans cette lignée-là. Là.
Donc, ça, c'est, on pourrait dire, un peu la pensée sociale de Marie Gérin-Lajoie à la fille. En 1913, c'est vraiment passionnant de lire ce qu'écrit Hélène Pessier-Baillargeon là-dessus. Elle fait un voyage en Europe, un grand voyage en Europe, et elle découvre ce qu'on appelle en Angleterre les « settlements ».
Oui.
Qu'est-ce que c'est, puis en quoi ça a une telle influence et sur elle et sur la congrégation qu'elle va fonder plus tard?
Bien. En fait, bon, son voyage est marquant. Elle part avec sa tante Antoinette, qui est, elle, une célibataire laïque, directrice d'une école ménagère.
Oui, parce qu'à tout ce temps-là, elle est laïque, là.
Oui.
Elle est laïque, elle pense le rester à ce moment-là.
À cette époque-là, oui, en 1913 encore. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'elle a terminé. Donc, elle va aller en France, en Belgique, en Italie et en Angleterre, et elle va voir les settlements. Les settlements, c'est des lieux d'intervention, finalement. Ce sont des jeunes, souvent des jeunes universitaires, qui décident d'aller s'installer dans des quartiers pauvres, dans des quartiers défavorisés, pour mettre en place des services communautaires, offrir de la formation et aller vers les gens, s'installer sur place pour aider les gens à se structurer, à se donner des outils, les appuyer dans leur recherche, finalement, d'amélioration. Donc, on est vraiment dans un monde d'auxiliaires où est-ce qu'on essaie d'aller aider les gens sur place, dans leur milieu. Et ça va se poursuivre en 1918, parce qu'elle va faire son voyage en 1913 en Angleterre. Elle va se familiariser avec ce modèle-là des settlements, qui sont souvent des modèles laïcs, on s'entend. Et en 1918, elle va aller rejoindre son frère Alexandre. On est à la fin de la guerre, et donc la filière française pour étudier est un peu fermée. Donc, il est allé à New York pour finir son droit. Et elle est allée le rejoindre pour une session, en fait, de formation à l'université à New York. Et elle va aussi visiter les settlements là-bas, parce que c'est une réalité américaine et britannique. Ça va lui la conforter dans cette manière-là d'intervenir, donc d'aller vers les gens, de s'installer dans les milieux pour offrir des services, de la formation, etc. Et à son retour, Mère Sainte-Anne-Marie, avec qui elle est restée en lien, va lui demander d'enseigner. Donc, de former des intervenants, ça va mener à la création d'une école d'action sociale en 1931 et à l'école de service social en 1939, qui va être intégrée à l'Université de Montréal l'année suivante. Mm-hmm. Donc, on dit souvent que Marie Gérin-Lajoie, c'est la pionnière du travail social au Québec. Là.
Ces expériences-là, ce qui est un peu déroutant, et on a eu un entretien dans le cadre de ses conférences sur Émilie Gamelin, qui était elle aussi une laïque au départ, mais qui éventuellement a décidé de devenir une sœur. Or, c'est exactement le même chemin que suit, évidemment, avec une optique, au point de vue théologique, très, très différente. Mais c'est un peu le même parcours que suit Marie Gérin-Lajoie, c'est-à-dire qu'il vient un moment où elle décide de rentrer dans les ordres, de devenir une religieuse. avec le recul, on se demande si, pour faire de l'action sociale de ce type-là, dans le cadre de la société canadienne-française de cette époque-là, on se demande presque si elle avait le choix. Est-ce qu'elle avait le choix? Est-ce qu'elle pouvait faire ce type d'action sociale en tant que laïque ou s'il y avait une sorte de pression pour qu'elle devienne une religieuse?
Ce n'est pas tellement facile de répondre à cette question-là, je dirais. L'engagement laïque était possible dans la mesure... Elle avait l'exemple de sa tante, par exemple, qui est restée célibataire toute sa vie, qui a travaillé toute sa vie, mais qui l'a fait dans une école, hein, l'école ménagère. Mais le modèle des settlements qui l'intéressait, c'était quand même un modèle de communauté. Donc, au départ, elle pensait à des communautés de laïcs, sauf que ce n'est pas évident d'engager une communauté de laïcs de manière permanente.
Ils auraient été quoi, bénévoles, ces gens-là?
Oui, ils auraient travaillé, mais ensemble.
Bénévolement? Dans son esprit? Sinon, qui aurait financé ça? Ça aurait été la charité?
En fait, elle n'était pas tellement à l'aise avec cette idée-là d'aller quêter pour ses œuvres, mais en fait, c'était de rendre des services et de se faire payer aussi à un certain moment donné.
Oui, oui, oui.
Elle va le faire, d'ailleurs, parce que ce qui va arriver, c'est qu'elle va se rendre compte à un certain moment donné que probablement que la communauté religieuse est la meilleure manière d'y arriver. Puis je rappelle aussi qu'elle était fondamentalement très, très croyante. Et elle a vu là la possibilité de former un noyau de femmes dédié entièrement au travail social, et de devenir des auxiliaires des œuvres laïques et de servir en fait d'appui permanent, hein, pas traversé par d'autres nécessités de la vie de tous les jours. Donc la religion permet un engagement total, complet dans ces œuvres-là. Et je pense que c'est vraiment dans cette perspective-là qu'elle a envisagé les congrégations. C'est une entreprise à long terme parce que devenir religieuse, elle aurait pu entrer dans une congrégation déjà existante. Il n'y en avait pas qui répondaient à ses aspirations. Donc, c'était de créer une nouvelle congrégation. Ça ne se fait pas en claquant des doigts.
Il faut aller directement à Rome, non?
Il faut aller directement à Rome, il faut avoir des appuis. Donc, à partir de 1917, elle va s'ouvrir de ce projet-là à Mgr Gauthier, à Mgr Bruchesi, etc. Elle va réussir à avoir un appui de leur part, mais c'est très long. Ça va prendre 6 ans avant qu'elle ait vraiment le OK pour créer la congrégation. Mais entre-temps, elle va obtenir l'autorisation de créer une communauté laïque, accompagnée religieusement par le père Bellavance, qui va commencer leur formation religieuse. Et là, vous me demandiez comment elle finançait leurs choses, elles œuvraient comme secrétaire pour la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, pour la Bonne Parole, pour l'hôpital Sainte-Justine. Ah, ouais. Donc, elles étaient payées pour du travail à certains moments donnés. Et elle allait chercher du financement auprès des paroisses pour faire du travail communautaire, par exemple. Mmh. Elles donnaient des cours, elles ont créé des cours, tout ça. Donc ça se met en place autour de 1921. Et en 1923, elle obtient l'autorisation de Rome de créer sa congrégation, ce qui va se faire en avril 1923.
Est-ce qu'elle doit se rendre à Rome? Je pense qu'elle va se... Non.
Non,
pas nécessairement.
Non. Mais là, elle n'est pas encore religieuse.
Non, c'est ça.
Parce qu'elle n'a pas fait son noviciat. Donc là, en 1923, elle doit commencer son noviciat et ensuite prononcer ses vœux. Donc, elle va devenir religieuse en bonne et due forme en 1927, finalement.
En même temps que responsable de cette toute nouvelle congrégation.
Oui, exactement.
Qui est en fait taillée sur mesure.
Pour elle, pour ses objectifs.
Pour ses objectifs.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il y avait il n'y avait pas en France ou en Europe des congrégations qui pouvaient ressembler à celle-là? C'était vraiment nouveau, là.
C'était assez nouveau dans la mesure où elle était entrée en lien avec des communautés en France, aux États-Unis, puis finalement, ça n'avait pas marché. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment une congrégation qui allait travailler dans le milieu. Donc, pas de clôture. Idéalement, elle aurait aimé qu'il n'y ait pas d'habits, de costumes.
Ah non!
Elle n'a pas eu le choix d'en avoir un, mais elle a choisi le plus minimaliste possible. Donc, elle ne voulait pas de grosses cornettes, etc. Dans sa perspective, ce n'était pas que les gens viennent à elle. c'était sa congrégation qui allait devoir aller travailler dans la communauté. Donc, les sœurs de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil ont toujours travaillé de cette manière-là. Elles envoyaient des religieuses dans telle ou telle paroisse pour établir des œuvres communautaires, etc. Donc ça, c'était nouveau.
C'était vraiment très avant-gardiste. Et elle est décédée en 1971,
oui.
Soit une dizaine d'années peut-être après le début du Concile Vatican II. C'est mm-hmm. tout à fait dans l'esprit oui. du Concile de Vatican II.
Et quand je faisais ma maîtrise, j'étais aux archives de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil et l'archiviste de l'époque, Sœur Blais, me disait, à partir du moment où on a eu l'autorisation de laisser l'habit, ça a été la première congrégation au Québec
ah, oui.
à prendre des
C'était habits. Tout naturel.
C'était tout naturel.
Oui. Maintenant, un mot sur cette fameuse congrégation. Vous avez déjà un peu esquissé sa mission, mais parlons-en un peu plus à fond. Quelle est vraiment spécifiquement sa vocation, son mandat, le mandat qu'elle se donne?
Bien, le mandat premier, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, c'est vraiment d'agir comme auxiliaire aux œuvres laïques. Donc, c'est d'aller dans les communautés pour former des gens, leur donner des outils pour améliorer leur sort. L'action de l'Institut va se faire en trois temps. Donc, la première chose qu'on veut, c'est intervenir pour amender un certain nombre de lois. Donc, il va y avoir un travail de recherche fait par les femmes de l'Institut. Ensuite, travailler à organiser les gens dans leur milieu. Ça nécessite de les former. De créer des coopératives, des choses comme ça, et aussi de soulager la misère sociale en répondant à des besoins spécifiques des communautés. Mais c'est vraiment d'agir comme auxiliaire, de structurer les œuvres communautaires, de faire du travail social, de travailler avec les communautés.
Mm-hmm. Je vous cite un extrait d'un texte qu'elle a publié dans les années 20. Au féminisme libéral qui prône le droit au divorce, la limitation des naissances, l'organisation individualiste de la vie et la licence sous toutes ses formes, l'Église oppose le féminisme chrétien qui veut obtenir pour la femme certains droits, mais en vue de l'accomplissement intégral de ses devoirs, par exemple, un certain droit au travail, parce que le travail protège non seulement son existence, mais encore sa moralité, ou encore le développement normal de ses facultés, parce que cette culture doit la rendre plus apte à servir. Pourvu toutefois que, mise en possession de sa pleine puissance d'action, la femme soit rendue plus consciente de ses devoirs, plus avertie des conditions sociales dans lesquelles elle doit agir et que des institutions appropriées l'aident à remplir chrétiennement ses tâches nouvelles. Mm-hmm. C'est dans l'esprit du maternalisme de
Tout
sa mère.
Fait. On voit vraiment très bien avec ce texte-là la filiation entre la mère et la fille. On voit aussi cette adhésion à des idées assez traditionnelles, en fait, du rôle des femmes dans la société. Donc, ce féminisme chrétien, l'idée, c'est de les rendre aptes à servir. Hein, c'est des mots qui veulent dire quelque chose. Mais ça montre aussi bien le rôle d'auxiliaire de l'Institut qu'elle vient de fonder, des institutions appropriées pour l'aider à remplir chrétiennement ses tâches nouvelles. C'est un des mandats que s'était donné l'Institut. Donc, ce texte-là est publié en 1932, en fait, mm-hmm. et ça s'appelle « Le retour de la mère au foyer ». Donc, elle est consciente du fait que plusieurs femmes n'ont pas le choix de travailler et jamais elle va vouloir empêcher les femmes qui en ont besoin de travailler. Mais ce qu'elle veut, c'est d'offrir aux femmes la possibilité de travailler là où elles sont les meilleures, là où est-ce qu'on attend leur intervention première, c'est-à-dire au foyer. Donc, on voit là quand même une position très, très traditionnelle du rôle des femmes.
Ça a été vos premières recherches, on conclut. Oui. Ça a été vos premières recherches, Corinne Hébert, d'étudier ce mouvement, ces femmes. J'imagine que la jeune femme que vous étiez, avec une certaine idée du féminisme qui est celui de notre génération, est-ce que ça vous avait choqué, ça, quand vous avez découvert ces perspectives? Comment avez-vous réagi?
En fait, non, je n'avais pas du tout été choquée. J'ai vu ça comme des portes ouvertes à cette époque-là. C'est un des rôles des historiens, d'être capable de se remettre dans un contexte, de comprendre les horizons de possibilités à une époque. Et Marie Lacoste-Gérin-Lajoie a ouvert de nombreuses portes sur le plan du suffrage, etc., etc. Sa fille a poursuivi ses quêtes en professionnalisant un peu peu le travail qui avait été mis de l'avant par sa mère. Non, je n'avais pas été choquée, mais ça m'avait ouvert à des nuances dans le discours féministe, dans le discours de revendication des femmes. Puis aujourd'hui, maintenant que je l'enseigne, je donne les cours d'histoire des femmes et je vois que les étudiants, encore aujourd'hui, sont très préoccupés de comprendre les bases à partir desquelles on peut se positionner dans la société. Et c'est particulièrement vrai cette session-ci. Je donne le cours d'histoire des femmes et j'ai deux équipes d'étudiants qui travaillent sur Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, qui ont décidé de faire leur travail de recherche sur Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, dont une des équipes vraiment sur la place de la religion dans son œuvre. Et ça, à mon avis, c'est très représentatif de l'ouverture actuelle des jeunes historiens qui vont vers ce genre de questionnement-là, qui était peut-être un peu moins évident il y a une vingtaine d'années quand moi j'ai fait ma maîtrise. Là.
Est-ce que vous trouvez que leur mémoire est suffisamment soulignée, connue? Est-ce qu'on leur rend justice?
Bien, quand on pose cette question-là, généralement, c'est parce qu'on imagine que non. Mais en fait, on pourrait dire ça de n'importe quel acteur du passé. Et en même temps, bon, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, quand elle est morte, a eu des éloges vraiment dithyrambiques. Elle a été reconnue comme la première à avoir ouvert ces portes-là. Il y a une salle de spectacle qui porte son nom. Il y a un parc à Québec. Elle est sur un des monuments en face de l'Assemblée nationale. Elle a fait l'objet d'une belle biographie. Marie-fille Gérin-Lajoie a aussi eu une biographie pour elle. Son institut lui survit. Il y a une école qui porte son nom, un centre de formation qui porte son nom. Donc, c'est sûr qu'on voudrait que leur mémoire soit célébrée, mais en même temps, il y a encore beaucoup de travaux qui sont faits sur elle. Et comme je disais, les étudiants sont encore intéressés par cette première génération-là de femmes qui ont ouvert des portes.
Merci beaucoup, Karen Hébert.
Ça fait un plaisir.
Merci. Pour en connaître davantage, il faut lire la biographie de Marie Gérin-Lajoie, écrite par Anne-Marie Sicotte, donc sur la première, Marie Gérin-Lajoie, et sur la seconde, même si on parle aussi de la première, il y a évidemment ce livre d'Hélène Pelletier-Baillargeon, Marie Gérin-Lajoie, de mère en fille, La cause des femmes. Si vous voulez lire un livre de Karine Hébert, il faut lire le livre tiré de sa thèse de doctorat, Impatient d'être soi-même, Les étudiants montréalais, 1895-1960. Donc, merci beaucoup et à bientôt.